Vous êtes sur RTL.
Je peux encore vous le dire une fois, même si je ne vous vois pas, en vous regardant bien dans les yeux. Moi, je suis innocent. C'est pas moi qui a fait ça. Je n'aurais pas eu le courage ni la force de faire un truc comme ça. C'est inadmissible. J'ai la force de tenir pour l'instant, mais il faudra que ça s'arrête quand même un jour.
Bonsoir. Un homme peut-il être renvoyé aux assises sans aveu et sans preuve sur un simple faisceau de présomption? Cette interrogation est au cœur même de l'affaire sur laquelle nous nous penchons ce soir, l'affaire Fernando Mourao ou l'affaire Gilles Tourny, au choix. Deux sexagénaires amis de 40 ans, le premier a été abattu sans sommation chez lui une nuit du mois de mars 2016, le second est son voisin. Il est considéré comme le meurtrier présumé, il risque de comparaître un jour devant un jury d'assises alors qu'il nie farouchement depuis le début toute implication dans ce crime, fait rarissime. Le parquet général a régulièrement fait savoir que le dossier manquait de consistance, ne réunissait pas suffisamment d'éléments pour incriminer Gilles Tourny. Malgré cela, les charges n'ont jamais été levées contre cet homme jusqu'ici totalement inconnu de la justice et qui depuis plus de 4 ans se démène pour faire entendre son innocence. Comment Gilles Tourny, paisible retraité, s'est retrouvé dans la peau du suspect numéro 1? C'est cette histoire riche en rebondissements, en doutes et en questions, un vrai cas d'école pour les élèves magistrats, avocats et enquêteurs. C'est cette affaire que nous allons explorer ce soir avec nos invités dans l'heure du crime. L'affaire Mourao, Gilles Tourny a-t-il tué son meilleur ami? Et pourquoi? L'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Fernando Mourao. Au tout début du printemps 2016, le corps de cet électricien retraité est retrouvé criblé de balles chez lui dans la petite ville de Château-Meillan, dans le Cher. Ce 25 mars 2016, en milieu de journée, Gilles Tourny, un retraité de 67 ans, reçoit un coup de fil inquiet. C'est l'une des sœurs de Fernando Mourao, son voisin, qui habite juste à côté, chemin du pavillon à Château-Meillan. La sœur indique que Fernando, 60 ans, devait passer prendre le café chez elle, mais il ne s'est pas présenté. En outre, son téléphone demeure désespérément muet. Elle s'adresse à Gilles Tourny car c'est un très vieil ami de la famille et un proche de longue date de Fernando. 40 ans qu'ils se connaissent et se fréquentent. Gilles Tourny se dit intrigué, il n'a pas vu Fernando de la journée, il décide donc d'aller voir chez lui ce qui se passe. Il frappe à la porte mais personne ne lui répond. Il entre et découvre aussitôt le corps inerte de son ami allongé dans une mare de sang. De toute évidence, l'homme est mort. En sortant, il aperçoit les deux sœurs de Fernando, il leur dit de ne pas entrer, mais d'appeler tout de suite les gendarmes. Ces derniers débarquent très rapidement sur les lieux. Le chemin du pavillon est en partie bloqué, l'enquête sur la scène de crime démarre. La police scientifique et les experts en balistique sont à pied d'œuvre. 4 balles de calibre 38 ont été tirées, les deux premières depuis l'extérieur de la maison, à travers la porte-fenêtre qui donne sur le salon. 2 autres ont été tirées dans le salon même, à bout portant, en direction de la victime qui était assise et regardait la télévision. Une balle a été mortelle, elle a atteint Fernando Mourao en pleine tête. De toute évidence, l'agresseur avait l'intention de tuer. Il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a mal tourné, contrairement à ce que le meurtrier a essayé de faire croire. Le salon et d'autres pièces de la maison sont sans dessus-dessous. Des affaires ont été jetées à terre et dispersées. Mais au final, il ne manque rien dans la demeure, qui n'abritait d'ailleurs aucun objet de valeur. Le portefeuille du propriétaire, seul chez lui au moment des faits, n'a même pas été dérobé. Le scénario ressemble à une exécution pure et simple. Les experts de la gendarmerie s'intéressent de près au garage de la maison. Les proches de Fernando Mourao affirment que celui-ci ne rentrait jamais sa voiture à l'abri. La plupart du temps, celle-ci stationnait devant chez lui. Or, La nuit du crime, l'auto a été remisée dans le garage. Très curieusement, elle a été nettoyée de fond en comble avec une étonnante méticulosité dans le but peut-être de faire disparaître la moindre trace, la moindre empreinte. Les enquêteurs ne vont rien prélever du tout dans le véhicule qui cachait peut-être un indice susceptible d'éclairer le meurtre du retraité. Impossible de l'affirmer et de le savoir, comme il est impossible de savoir qui en voulait à la victime, un retraité qui ne faisait pas parler de lui et ne semblait pas, a priori, avoir d'ennemis. Bonsoir Roger Marc Moreau.
Bonsoir.
Vous êtes enquêteur privé, vous avez, si je puis dire, enquêté sur de très nombreuses affaires, dont le dossier Omar Haddad. On va bien sûr parler très longuement de cette enquête qui ne fait alors que démarrer. On verra ce que vous avez sans doute pu trouver dans ce dossier qui démarre, on le dit, hein, vraiment comme une énigme, comme un point d'interrogation. Pour l'instant, on va laisser, si vous voulez bien, Gilles Tourny un petit peu en arrière-plan. Concentrons-nous déjà sur la scène de crime. Que dit-elle cette scène de crime ? Banale, a priori.
Oui, un homme a été exécuté par une arme de très gros calibre.
Calibre 38 ?
38 spécial. C'est un 9 mm, c'est très puissant, ça fait énormément de bruit. Or déjà, dans le quartier, personne n'a entendu la moindre détonation. 4 balles ont été tirées depuis l'extérieur, ont brisé la baie vitrée. Donc c'est déjà anormal. Manifestement, cette arme devait être munie d'un silencieux. C'est quasiment une arme de professionnel du crime.
C'est ça. C'est pas de tueur à gage.
De tueur à gage. C'est pas une arme d'un petit voisin retraité. Et puis, on n'a pas voulu lui laisser la moindre chance. Ce sont des gens donc qui ont été, je pense, repérer les lieux et qui ont tiré ces 4 balles simplement pour l'immobiliser.
Oui, parce que Roger Marc Moreau, il faut connaître l'endroit. Hein. Il y a cette porte vitrée, là, j'en ai vaguement parlé. Il y a toujours ce tir en premier lieu, qui est quasiment un tir presque d'intimidation, qui va sans doute peut-être figer la victime. Et puis ensuite, les personnes sont entrées. C'est comme ça que ça s'est passé ?
Pour l'immobiliser, il faut savoir que Moreau se savait menacé et par conséquent, il était armé. Il avait posé des cartouches partout dans la maison au cas où on l'agresserait. Et par conséquent, ils ont voulu l'empêcher d'agir. Puis dans un second temps, ils sont rentrés pour l'achever, pour s'assurer qu'il était bien mort.
Sur les menaces, évidemment, on va en reparler un peu plus tard dans l'heure du crime, mais là, c'est sûr, il était armé, Moreau. Il y avait des cartouches.
Il avait un fusil à proximité, à portée de la main. Il avait été déposé des cartouches de son fusil de chasse partout dans la maison, jusque dans ses toilettes.
Donc c'est
comme il serait pris par surprise.
Donc c'est qu'il se sentait particulièrement inquiet, on peut le dire comme cela.
Tout à fait. Hein.
Maître Sylvain Cormier, vous êtes vous l'avocat de Gilles Tourny. Alors, encore une fois, on va évidemment parler, c'est votre client qui est au centre de cette affaire aujourd'hui. À l'époque, il a de très bons rapports avec Moreau, Tourny. Ça se passe bien, il n'y a pas de souci de voisinage entre ces deux familles.
Il n'y a aucun souci de voisinage. On peut même dire que les deux familles n'en forment en fait qu'une, puisque là, une fille Moreau va se marier. Enfin, les deux familles vont s'imbriquer par un mariage.
Ils sont parents, c'est ça,
par le biais du mariage. Donc non seulement ils sont amis, mais ils sont parents. Et je suis très heureux que vous ayez mis de côté Gilles Tourny au début de cette émission, parce que l'enquête ne le cible pas du tout. C'est que 2 ans plus tard, parce qu'on est dans une impasse, voilà, qu'on va tomber sur lui.
Pour l'instant, il n'apparaît pas.
Absolument.
Il est simplement la personne qui a découvert le crime. Et Roger Marc Moreau, une personne qui découvre le crime, c'est triste à dire, mais c'est toujours le premier suspect, c'est ça ?
Ça peut être le premier suspect si les enquêteurs ne sont pas très finaux, parce qu'il n'est pas venu par hasard. C'est la famille de la victime qui l'a appelé, parce que c'était le plus proche voisin, simplement, et un ami intime de la victime. Donc il est venu à leur demande, et en entrant dans cette pièce, bien évidemment, il constate que son ami, avec lequel il passait parfois des fêtes de Noël, etc., eh bien, est décédé. Évidemment, il est sous le choc. Mmh. Alors, les enquêteurs vont essayer de dire oui, mais il a demandé à ses proches d'appeler les gendarmes.
Oui, il y aura effectivement...
Et non pas les pompiers. Donc comment savait-il qu'il était mort si, voilà, ça pourrait sous-entendre qu'il l'avait tué lui-même.
Il va y avoir effectivement une espèce de polémique là-dessus, à savoir que l'homme qui découvre le corps, le premier réflexe, c'est pas d'appeler les pompiers, le SAMU, les secours, etc., ou le médecin du coin, mais d'appeler les gendarmes. Un petit mot là-dessus, Sylvain Cormier, vous êtes l'avocat de Gilles Tourny. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Lui, il dit qu'il s'est affolé ou qu'il a compris tout de suite ce qui se passait?
Lui, honnêtement, je suis à peu près sûr que si on lui demandait aujourd'hui ce qu'il a fait vraiment, si c'est les pompiers ou les gendarmes, ça serait très difficile pour lui de répondre. Mais pour moi, c'est le symptôme d'une enquête qui déraille déjà. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des indices contre lui, on fait des suppositions. Vous avez, Roger Marc Moreau vous l'a dit, on lui dit, vous avez appelé les gendarmes. Ah, c'est que vous saviez qu'il était mort, sinon vous auriez appelé les secours. C'est ridicule, quelque part.
Un meurtre tout aussi brutal qu'incompréhensible, qui ne délivre pas beaucoup de pistes. 11 mois vont ainsi s'écouler avant que le voisin Gilles Tourny se retrouve dans la ligne de mire des enquêteurs. L'affaire Mourao, quand le meilleur ami devient soudain le suspect numéro 1. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. L'heure du crime sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Fernando Mourao, un retraité de 60 ans abattu chez lui à Châteaumeillan dans le Cher. Presque un an d'investigation discrète, puis ce coup de tonnerre à l'hiver 2017. Le 8 février 2017 au matin, les gendarmes sont de retour, chemin du pavillon, là où a été sauvagement assassiné Fernando Mourao dans la nuit du 24 au 25 mars 2016. Mais cette fois, ils frappent à la porte de la maison d'à côté, chez les Tourny, un couple marié depuis 45 ans et qui a toujours habité Châteaumeillan et la région. Gilles et Simone Tourny sont sortis du lit par les gendarmes. Ils ont du mal à réaliser ce qui se passe. Il aurait signifié qu'ils sont placés en garde à vue. Le couple pourrait être mêlé au meurtre de Fernando Mourao. Les enquêteurs ont des raisons de penser qu'ils sont impliqués. La juge d'instruction de Bourges, Sylvie Barucco, a ordonné cet interrogatoire. Après 11 mois de silence, les investigations s'accélèrent brutalement. Les Tourny n'ont jamais fait jusque-là figure de suspect. 48 heures de garde à vue pour les époux Tourny. Les questions portent essentiellement sur leur emploi du temps, la nuit du meurtre. Interrogatoire distinct, mais réponses identiques. Ils étaient chez eux, ont regardé la télé. Ils certifient qu'ils n'ont rien entendu, pas le moindre coup de feu, et n'ont rien noté de bizarre dans le quartier. Les enquêteurs se renseignent également sur les liens qui liaient le couple avec les Tourny. Ils certifient qu'ils n'avaient rien à lui reprocher. Tout au contraire, Fernando Mourao, que Gilles Tourny prénomme familièrement Fernand, Mourao était un ami. Gilles Tourny l'avait rencontré il y a 40 ans, en 1976, au centre électrique de Saint-Amand-Montrond. Les deux hommes étaient collègues, des électriciens, posant des lignes et des poteaux. C'est Gilles Tourny qui avait trouvé le petit terrain à vendre près de chez lui, à Châteaumeillan, là où Mourao avait fait bâtir sa maison. C'était un bon gars et un bon voisin, répétera Gilles Tourny. Après deux jours de garde à vue, Simone Tourny quitte libre les locaux de la gendarmerie, mais elle ne peut même pas rentrer chez elle. La maison familiale a été perquisitionnée, elle est placée sous scellé. On nous a mis sur écoute et on nous reproche d'avoir beaucoup parlé de cette affaire. Mais c'est normal, c'est notre voisin. Gilles et Fernando étaient amis. Ils passaient énormément de temps ensemble, témoigne Simone dans le journal Le Berry Républicain. Contre toute attente, Gilles Tourny est lui déféré au pôle de l'instruction de Bourges. Il nie farouchement toute implication dans cette affaire. La juge Barucco le soupçonne de mentir. Elle estime suffisant le faisceau de présomption établi par les enquêteurs pour mettre Tourny en examen pour meurtre. Celui-ci est écroué à la maison d'arrêt de Bourges, que l'on appelle ici la prison du Bordio. Sylvain Cormier, vous êtes l'avocat dans cette affaire de Gilles Tourny. Je l'ai dit, un coup de tonnerre. Pourquoi Gilles Tourny se retrouve en prison? Quelles sont à ce moment-là, à ce moment précis du dossier, les charges qui peuvent peser sur lui?
Alors, ça prête à sourire, mais les charges qui pèsent sur lui sont le fait qu'il y a 35 ans, il y a eu des adultères croisés entre les Mourao et les Tourny. Et puis, un enquêteur qui se met littéralement à... divaguer, on peut dire ça. Je vais vous lire un passage de son procès verbal de synthèse. C'est le premier élément qu'il retient à charge, mais les bras vont vous en tomber.
Alors le PV de synthèse, je le précise pour nos auditeurs, évidemment comme son nom l'indique, c'est le document qui permet de faire la synthèse de toute l'enquête et qui est présenté au juge.
Voilà, c'est ça, c'est un document qui résume les charges. Premier paragraphe quasiment qui concerne Gilles Tourny. Gilles Tourny déclarait qu'il sortait ses chiens tous les soirs dans la rue. Sauf ce mercredi soir, il les avait sortis uniquement dans la cour de son domicile. Et là, il écrit en gras. Cette déclaration spontanée, faite dès les premières heures de l'enquête, démontre que Gilles Tourny savait parfaitement que M. Mourao avait été tué au cours de la soirée du mercredi 23 mars 2016. On ne peut pas s'en sortir quand on a un enquêteur qui fonctionne comme ça. Vous parlez du dossier, vous êtes sur écoute, eh ben c'est louche. Vous ne parlez pas du dossier, c'est doublement louche. Il n'y a rien qui peut vous permettre de vous tirer d'affaire.
Ce que vous nous dites là, maître Sylvain Cormier, c'est que c'est un procédé par déduction, finalement. On estime que si on n'a pas sorti les chiens à telle heure, c'est qu'on avait peur de découvrir quelque chose, ou en tout cas qu'on était impliqué.
Voilà, c'est ça.
Dans un délit.
Exactement.
Ou un crime.
Exactement, et tout a fonctionné comme ça. L'exemple de tout à l'heure, il appelle les gendarmes et pas les pompiers. On fait une espèce de mini-reconstitution que pour ce point-là. Mmh. Eh bien, si c'est les gendarmes, ça veut dire qu'il savait. S'il savait, c'est lui, le tueur, etc.
Vous nous certifiez, maître, ce soir dans l'heure du crime, qu'il n'y a pas d'autres éléments à ce moment-là, je parle bien à ce moment-là de l'enquête, qui permettent de l'envoyer en détention.
Non, c'est des accumulations de cet ordre. Il devait venir l'aider pour le travail. Il n'est pas venu, il aurait dû s'inquiéter, il ne s'est pas inquiété, etc. Ça s'accumule comme ça.
Roger-Marc Moreau, criminaliste, je le précise.
Oui, merci. Oui, alors, en fait, les gendarmes vont apprendre également que Gilles Tourny ne leur avait pas dit qu'il possédait des armes. C'est ainsi qu'ils vont présenter les choses. En effet, une dame de Châteaumeillan, le petit village dans lequel ils habitent, qui était l'épouse d'un gendarme qui était décédé, voulait vendre les armes de collection que conservait son mari. Alors c'était quoi? C'était des pistolets d'alarme, des pistolets à air comprimé, à plomb, etc. Mmh. Et l'armurier local va les proposer à Tourny, qui va accepter de les acheter à un bas prix. Il s'est dit, ça me sera utile peut-être s'il y a des nuisibles qui rentrent dans mon jardin, parce qu'ils sont aussi des poules.
Oui.
Et puis, il va donc, par précaution, parce qu'il a des petits-enfants, il va les dissimuler dans un appentis. Et puis, les gendarmes vont les découvrir et faire comme si Gilles Tourny était armé. Donc, il possédait des armes. Donc, il a le profil d'un criminel.
Alors, vous dites qu'il possédait des armes. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'entraîne, par exemple, dans des clubs de tir? Est-ce qu'il est dans ce milieu-là?
Il ne s'en est quasiment jamais servi. Je crois qu'une fois, il a dû sortir une carabine à air comprimé et fait du tir avec son fils dans son jardin sur un carton.
Il faut préciser, pour être très clair, qu'aucune des armes qu'on va retrouver chez Gilles Tourny ne correspond au calibre de l'arme du crime.
C'est la question que j'allais vous poser. Et d'ailleurs, oui. Cette fameuse arme du crime, elle n'a jamais été retrouvée, il faut le préciser. Hein.
Jamais.
Donc ce fameux calibre 38 spécial, qui est particulier, qui est une arme de criminel pure et dure, n'a jamais été retrouvée. Je voudrais qu'on revienne avec vous un instant, Roger-Marc Moreau, sur ce que vous nous avez dit dans la première partie, moi qui m'a un petit peu stupéfait. C'est le nombre de cartouches et puis d'armes qui entouraient la victime, Fernando Mourao. Pourquoi était-il, alors on va y venir, il y a une histoire de famille derrière ça, mais en tout cas, il est certain, il se sentait menacé, il avait reçu des menaces, Fernando Mourao?
Il avait reçu des menaces, et pas des petites menaces, il avait reçu des menaces de mort. Mmh. Et il a même en présence d'un avocat. Parce qu'il avait engagé une procédure judiciaire contre
un divorce compliqué. Ouais.
C'est pas
faire des divorces, de garde d'enfant, pardon.
De reconnaissance d'enfant. Et puis, cet homme s'y opposait. En fait, il soupçonnait Mourao de vouloir récupérer l'enfant qu'avait eu sa compagne, car effectivement, sa compagne l'avait trompé avec Mourao. Et puis, peut-être de récupérer l'enfant et peut-être sa femme. Par conséquent, il en voulait absolument. Et puis, il espérait tirer de l'argent également. Il en tirait d'ailleurs depuis plusieurs années de Fernand, qui lui donnait de l'argent pour pouvoir voir son fils. Or là, Fernand avait décidé d'arrêter.
Il avait décidé d'arrêter et donc de cesser toute discussion avec ce couple, hein, c'est bien ça, hein ?
Absolument.
Gilles Tourny, mis en examen, l'enquête va devoir nourrir un dossier qui ne contient aucune preuve formelle. Les mois qui viennent seront donc capitaux. Les investigations sont axées sur un seul homme au risque de négliger d'autres pistes. L'affaire Mourao, pourquoi Gilles Tourny, suspect numéro 1, aurait-il tué son voisin ? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime. L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir dans l'heure du crime, notre enquête sur le meurtre de Fernando Mourao. Son voisin et ami de 40 ans, Gilles Tourny, est écroué pour ce crime. Il nie. Un mois après cette mise en examen, les enquêteurs sont de retour sur le lieu du meurtre. Le mardi 28 février 2017 au soir, la juge d'instruction et les gendarmes sont rassemblés aux abords de la maison de Fernando Mourao. Il s'agit de procéder à une reconstitution sonore du crime. On sait que le tueur a abattu le retraité d'une balle dans la tête et qu'il a tiré au moins à 4 reprises. Les enquêteurs veulent savoir si ces tirs pouvaient être entendus depuis le domicile tout proche des Tourny. Gilles Tourny, qui n'a pas été extrait de la prison pour cette reconstitution, a toujours affirmé qu'il n'avait rien entendu. Son épouse a dit la même chose. 15 coups de feu sont donc tirés à l'extérieur et à l'intérieur de la maison de la victime. Le résultat est plus que mitigé, aléatoire. Les coups de feu extérieurs semblent perceptibles. Ceux tirés dans le salon sont inaudibles. L'expérience dure 2 heures. Je ne suis pas sûr que ce soit déterminant, mais il fallait le faire. Dans la majorité des cas, les tirs étaient audibles, affirme maître Eugène Bangoura, avocat du frère et d'une sœur de la victime. Maître Jean-Michel Florier, alors avocat de Gilles Tourny, affirme tout au contraire que cette démonstration n'a servi à rien. Un peu plus d'un mois plus tard, Gilles Tourny formule sa première demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de Bourges. Fait suffisamment rare pour être souligné, le parquet général estime que le dossier est trop léger pour justifier le maintien en détention du mis en examen. Il est donc préconisé que Gilles Tourny soit placé sous contrôle judiciaire strict. Mais contre toute attente, la chambre de l'instruction confirme le maintien en détention de l'intéressé. Pour, est-il précisé, les besoins de l'enquête et éviter les pressions. Pour le moins étonnant, alors que Gilles Tourny a passé 11 mois en toute liberté après le meurtre et aurait eu alors tout le loisir d'exercer d'éventuelles pressions. Gilles Tourny et son épouse Simone ne sont pas les seules personnes à avoir été entendues dans cette affaire. Au mois de mars et de mai 2016, au moins 4 personnes ont été entendues. Parmi elles, un couple a retenu un peu plus l'attention. Les gendarmes ont appris que Fernando Mourao, père de 2 filles issues d'une première union, avait également un petit garçon, né 6 ans auparavant, avec une femme plus jeune que lui. Cette relation s'était dégradée au point que le couple se dispute la garde de l'enfant. Fernando aurait même reçu des menaces. La mère du petit garçon et son nouveau compagnon sont interrogés. Ils ont tous les deux un alibi pour la nuit du crime et sont donc relâchés. Roger-Marc Moreau, criminaliste, et vous enquêtez sur cette affaire. Alors, on revient sur ce fameux couple qui attire tout de même l'attention des enquêteurs. Ils ont été entendus. Racontez-nous, répétez-nous, parce que c'est important dans cette affaire, cette espèce d'inimitié qui existe désormais.
C'est un couple que connaissait Fernand depuis longtemps. Ce couple vivait ensemble depuis longtemps. Ils avaient déjà eu une fille. Et puis, cet homme s'est montré assez libéral, puisqu'il a laissé son épouse avoir des relations avec Mourao. Mmh. Et il lui est arrivé d'aller voir des gens et de dire « Où est ta femme ?» Et il dit « Elle est en train de faire un enfant avec Mourao », répondait-il. Et effectivement, de cette relation va naître un enfant. Un petit garçon dont Fernand va devenir fou amoureux. Et le couple, en fait, il semblerait qu'ils avaient décidé, parce que Mourao n'était pas très riche, mais il gagnait suffisamment bien son argent, puis il avait fait quelques économies, et par conséquent, il payait pour l'enfant. Mmh. Et ce couple lui extorquait en quelque sorte de l'argent. Jusqu'au moment où Mourao, un jour, va décider de ne refuser de donner de l'argent. À ce moment-là, on va le refuser qu'il voit son fils. Et puis, il va engager, lui, une procédure en paternité pour contraindre la mère de l'enfant de lui donner son fils.
Donc, il va taper sur la table, il va se fâcher. Hein. En tout cas, les choses vont mal tourner. Sylvain Cormier, vous êtes l'avocat de Gilles Tourny. J'allais pas dire cette double vie de Mourao, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, mais en tout cas, cette vie un petit peu parallèle de la victime, tout le monde est au courant dans le quartier.
Oui, c'est tellement vrai que lorsque les gendarmes se déplacent pour faire les premières constatations, tout de suite un voisin vient les attraper et leur dire « Mais attendez, je sais ce qui s'est passé, j'ai des choses à vous dire. » Et il va expliquer ce qu'a raconté Roger Marc à l'instant. Mmh. Et donc non seulement les gens savaient, mais ils savaient aussi que c'était une préoccupation majeure de Fernand Mourao, qu'il était très inquiet et que cette situation était en train de dégénérer.
Est-ce que selon vous, maître, on s'est focalisé sur votre client au point que tout ce qui est autour, tous les satellites qui peuvent apparaître sont invisibles pour les enquêteurs?
Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. L'enquête a été vraiment mal faite dès le départ. On le voit simplement en lisant les interrogatoires. On n'a pas poussé les investigations sur les premiers suspects. On est dans une impasse 18 mois plus tard et on focalise sur Gilles Tourny.
Roger Marc Moreau, vous êtes criminaliste et vous connaissez parfaitement ce genre de dossier. Vous partagez ce sentiment selon lequel il y a eu
absolument, parce qu'en fait,
un focus sur Gilles Tourny.
On a eu un directeur d'enquête de la gendarmerie, de la section de recherche de la gendarmerie de Bourges, qui a fait une obsession sur Gilles Tourny. On ne sait pas pourquoi, s'il lui était antipathique ou autre. Toujours est-il que pour lui, il n'y avait que Gilles Tourny dans son viseur. Et quant aux deux suspects dont nous vous parlons, il y avait des éléments quand même très importants, parce qu'on va retrouver sur eux des résidus de tir.
Ah bon ?
On va retrouver sur lui et sur sa compagne et sur son sac à main. Alors, ça pourrait être démontré peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Donc, quand on va lui poser la question, il va dire « Non, mais le week-end, là, il y a un renard qui a voulu rentrer chez moi. J'ai pris mon fusil et j'ai tiré dessus. »
C'est un chasseur.
En tout cas, il va dire qu'il était à la chasse au renard ce soir-là.
Enfin, il n'était pas à la chasse au renard. Il a voulu tuer le renard qui est rentré chez lui. Alors, ils disent « Mais où est le renard ?»« Mais je l'ai raté. » »« Vous avez conservé la cartouche ?»« Non, je l'ai brûlé. » Jamais vu personne brûler une cartouche, simplement.
Alors ça, c'est pour le moins troublant et très étonnant ce que vous nous racontez.
En
quelques mots, ils en restent là. Il n'y a pas de perquisition. Leurs auditions vont s'arrêter et elles ne seront pas reconduites à aucun moment.
Alors, ils vont quand même focaliser sur quelque chose. C'est que, vous savez, maintenant, on peut géolocaliser les téléphones. Ouais, or, ce soir-là, le téléphone du suspect et de sa compagne se trouvait bien à leur domicile. Ils habitent eux-mêmes Château-Maillan, ce petit village. Hein. C'est faut faire un kilomètre pour venir à pied chez Mourao. Bon, la présence de ce téléphone à son domicile lui donne soi-disant un alibi. Mais enfin, maintenant, aujourd'hui, cet homme qui avait de lourds antécédents judiciaires, faut le dire, pour des faits de violence notamment, il doit savoir, comme toutes les personnes qui ont déjà fait de la prison, qu'on ne part pas faire un crime avec son téléphone portable, puisqu'on va être géolocalisé et arrêté dans la foulée.
Malgré les doutes, Gilles Tourny reste donc pour le moment en détention. Il continue imperturbable à nier les faits et demande à rentrer chez lui. L'enquête arrive alors à un tournant ou débouche plutôt sur une impasse. Dans tous les cas de figure, la détention est de plus en plus difficile à justifier. L'affaire Mourao, Gilles Tourny, meurtrier présumé, est-il un accusé sans preuve? L'enquête ce soir de l'heure du crime, rendez-vous dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Ce soir, heure du crime consacrée au meurtre de Fernando Mourao en mars 2016. L'enquête a fini par désigner l'auteur présumé, Gilles Tourny, voisin et vieil ami de la victime. 4 mois de détention provisoire et une sortie sous contrôle judiciaire.
Le vendredi 2 juin 2017, Gilles Tourny quitte donc la maison d'arrêt de Bourges. Il est interdit aux retraités de retourner dans le Cher et de revenir dans sa maison de Château-Meillan. Il ne peut pas retrouver son épouse. Il va aller vivre chez l'une de ses filles en Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Deux semaines avant d'être placé sous ce strict contrôle judiciaire, Tourny avait été conduit sur le lieu du crime, cette fois pour participer en présence de la juge d'instruction Sylvie Barucaud à une reconstitution de la découverte du corps. Les explications qu'il a fournies ne sont pas toujours très claires et parfois contradictoires. Il y a des choses troublantes dans ce dossier, conclut Maître Bangoura, l'un des avocats de la partie civile. Il est par exemple reproché à Gilles Tourny de n'avoir pas prévenu les secours, mais directement la gendarmerie pour se justifier. Il a répondu qu'il avait tout de suite vu que Fernando était mort et de mort violente. Au catalogue des interrogations qui vise Gilles Tourny figurent plusieurs éléments rassemblés par les enquêteurs. Le fait qu'il ne serait pas sorti avec ses chiens la nuit du crime, alors qu'il le faisait toujours. Il aurait préféré visionner un deuxième film chez lui. Le fait encore de ne pas s'être inquiété de ne pas voir Fernando le lendemain du crime, alors que celui-ci devait l'aider à poser une dalle en béton. Il est encore précisé que Gilles Tourny n'a pas appelé son ami pour prendre de ses nouvelles. Il a expliqué qu'il n'avait pas son numéro, pour le moins curieux, pensent les gendarmes, pour un ami proche. Les gendarmes qui croient également avoir mis au jour un possible mobile, celui d'une vieille affaire sentimentale qui aurait empoisonné les relations entre Gilles et Fernando il y a 35 ans. Gilles Tourny avait effectivement entretenu une relation adultère avec la femme de Fernando Mourao. Ce dernier aurait eu en retour une liaison avec l'épouse du suspect, une parenthèse depuis longtemps oubliée, a juré le couple Tourny. Sur une écoute, Simone Tourny a toutefois cette phrase qui fait tiquer les enquêteurs. Fernando ne m'avait jamais fait de proposition, mais c'est vrai qu'il avait une façon de me regarder, et mon mari s'en est peut-être aperçu. Dans tous les cas de figure, l'affaire déchire la petite ville de Château-Meillan. Un comité de soutien à Gilles Tourny est mis sur pied. Une partie de la famille de la victime ne croit pas non plus à sa culpabilité. 2 ans après le meurtre de Fernando Mourao, ses 2 filles, ses frères et ses sœurs apposent une plaque sur le portail de la maison du crime pour montrer qu'on ne l'oublie pas, même si c'est dur de faire son deuil alors que l'enquête n'est pas terminée et qu'on n'a toujours pas la vérité, confie alors l'une des filles de la victime. Maître Sylvain Cormier, on revient un petit peu sur ce catalogue de charges, je dis bien charges entre guillemets, de présomption en tout cas qu'ont dressé les gendarmes. Il y a cette absence de curiosité de la part de votre client qui ne passe pas de coup de fil alors qu'il attend sans doute Fernando Mourao ce jour-là. Et il ne le voit pas venir ?
Alors ça fait partie des éléments, vous l'avez lu, avec les chiens, avec d'autres choses de ce genre. Alors Gilles Tourny lui explique naturellement que voilà, c'est son voisin immédiat, il s'est dit qu'il était parti quelques jours et puis qu'il le reverrait plus tard. Enfin, il en a pas fait une affaire. Et je dois dire que la famille de Fernand non plus. C'était banal. Je ne crois pas qu'il y avait quelque chose de particulièrement inquiétant à ce moment-là.
L'adultère, qui est un adultère ancien, 37 ans, enfin quasiment une quarantaine d'années, ça intrigue beaucoup les gendarmes.
C'est un adultère qui a duré, je crois, quelque chose comme 24 heures.
Ah, c'est seulement assez court.
Hein, ouais. Voilà, c'est, moi je dirais que c'est un mobile irrationnel. Il y a longtemps que c'était terminé. Ce sont des gens qui avaient plus de 60 ans, ils approchaient 70 ans. Ils parlent d'une affaire qui a lieu quand ils avaient 25 ans. C'est complètement hallucinant de trouver ça comme étant un véritable mobile. Ça ne tient pas, évidemment. C'est irrationnel, c'est alambiqué, c'est tout ce que l'on veut. Ça ne peut pas être un mobile. Au fait qu'il ne se soit pas inquiété parce que son voisin n'est pas venu, il a toujours expliqué, Gilles Tourny, qu'il lui avait dit qu'il devait se rendre dans la semaine à Paris, où il avait une amie également, parce qu'il avait pas mal de relations. Mourao, là, il s'est dit, tiens, il ne vient pas, il a dû partir à Paris. Point final, comme le véhicule automobile n'était pas à l'extérieur comme souvent, il n'a pas cherché à aller le voir chez lui. Il s'est dit, il est parti.
C'est ça, donc le véhicule...
Simplement, bêtement.
Le véhicule, on le répète, Fernando Mourão avait l'habitude de le garer à l'extérieur de la maison, et ce jour-là, il est invisible puisqu'il est dans le garage.
Disons qu'il était le plus souvent à l'extérieur, mais de temps en temps, ses sœurs nous disent, les sœurs de Mourão, de la victime, nous disent que quand il avait des sacs à décharger, des choses lourdes, il pouvait le rentrer dans le garage.
Il pouvait le rentrer.
Et ce jour-là, il est revenu avec des sacs, donc peut-être l'a-t-il rentré lui-même, le véhicule, comptant le décharger le lendemain matin.
Et ça tombe bien ce que vous parliez du véhicule, parce qu'on l'a évoqué au tout début de cette heure du crime, le véhicule a été nettoyé, a priori. C'est ce que disent les enquêteurs. Ils disent
C'est ce que dit le fameux directeur d'enquête de la gendarmerie, dans un procès-verbal de synthèse.
Ah, pourquoi
mais les experts... Non, non, les expertises, maître,
maître Cormier,
on trouve de l'ADN, confirmer, oui, on trouve plein d'empreintes dans cette voiture.
Donc elle est pas nettoyée.
On trouve plein d'empreintes, notamment de Mourão, elle n'a pas été nettoyée. Mais quand il dit « on ne trouve pas, on ne trouve rien », c'est parce qu'il n'y a pas les empreintes de Tourny. Cet enquêteur faisait une obsession absolue sur Gilles Tourny.
Donc il y a bien des empreintes dans cette voiture, qu'on soit définitivement clair.
Il y a des empreintes dans cette voiture.
Dossier à l'appui.
Donc l'affirmation selon laquelle elle a été nettoyée est fausse. C'est faux.
Donc ça ne tient pas, cette histoire-là.
Ça non plus.
Ne tient pas. L'enquête approche de sa conclusion, même si pour la défense de Gilles Tourny, elle est loin d'être terminée. Pas question que l'ancien électricien soit renvoyé devant une cour d'assises. L'affaire Mourão, son vieil ami Gilles Tourny sera-t-il jugé? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir, dans l'heure du crime, le meurtre de Fernando Mourão. Son voisin et ami Gilles Tourny est accusé de ce meurtre, mais la justice hésite sur la suite à donner à ses poursuites. Non-lieu faute d'éléments ou renvoi devant un jury d'assises. Le 29 janvier 2019, le dossier de l'affaire Mourão est bouclé par la juge d'instruction. La procédure est, selon la formule juridique consacrée, communiquée au parquet de Bourges pour règlement, en clair, pour que le procureur émette son avis sur un renvoi ou non devant une cour d'assises. Cette décision aurait dû être prise fin 2019, mais à ce jour, elle n'a pas été tranchée. Alors que l'enquête est close, Gilles Tourny a été autorisé à revenir vivre dans sa maison de Château-Meillan. Contrôle judiciaire assoupli, son avocat Sylvain Cormier évoque alors un dossier en l'état complètement inabouti. L'instruction s'est focalisée sur mon client et c'est regrettable. Le défenseur estime en outre, après examen du dossier, que plusieurs témoignages ont été orientés contre Gilles Tourny. Des enquêteurs auraient manqué d'objectivité. Il dépose plainte pour subornation de témoins contre le directeur d'enquête de la section de recherche de la gendarmerie. Ajoutez à cela le travail de l'enquêteur criminaliste Roger-Marc Moreau. L'affaire Mourão-Tourny est pour le moins remise en question. Après plus de 3 ans d'enquête et d'instruction, Gilles Tourny attend toujours d'être fixé sur son sort. Des actes supplémentaires demandés par les parties civiles ont été joints au dossier, mais demeureraient encore incomplets. L'épouse du mis en examen, Simone Tourny, confiée au mois de mai dernier... Pour Gilles, il est impensable d'aller aux assises. Cela fait plus de 3 ans que cette affaire dure. On veut la vérité pour reprendre une vie normale. Depuis le départ, Gilles clame son innocence. Maître Sylvain Cormier, avocat de Gilles Tourny, très simplement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
On en est à un constat. On en est dans un constat, si vous voulez, d'échec. Et je crois qu'on le doit à la chambre d'instruction qui a accepté les demandes d'actes. La défense en avait formulé, les parties civiles aussi. Et je crois que du côté de la chambre d'instruction de la cour d'appel, on s'est dit on ne peut pas laisser ce dossier en l'état et il faut aller beaucoup plus loin.
Parce que le dossier est incomplet, évidemment. Hein, c'est ce que concluent ces magistrats. Est-ce qu'on peut savoir quels sont ces nouveaux actes qui sont en cours ?
Dans une instruction avec des actes en cours, c'est délicat de les évoquer. On pourrait peut-être même les compromettre. Mais en tout cas, disons que certaines pistes qui avaient été négligées sont réouvertes. On a demandé certaines vérifications techniques qui paraissaient évidentes, mais qu'il fallait faire et qui avaient été complètement oubliées parce que, encore une fois, ce phénomène de centrage...
On s'est focalisé sur
sur Tourny.
Sur Gilles Tourny.
A vraiment causé du tort à l'enquête.
Roger-Marc Moreau...
Oui, je voulais dire, donc la défense, effectivement, vient de déposer des nouvelles demandes d'actes. Donc c'est de ce cela que parle Maître Cormier. En revanche, la partie civile, l'avocat de la partie civile, Juliette Chapelle de Paris, avait déposé pour la partie civile des demandes d'actes il y a plus d'un an. La juge d'instruction n'avait pas jugé utile d'écouter ce que lui avait ordonné la chambre de l'instruction. Mmh. Il a fallu qu'il se fâche, de manière à ce que ça se fasse quand même. Et ça a été fait il y a quelques jours, puisque les équipes d'experts, une dizaine d'experts, sont venus pendant 2 jours, ont investi le domicile de Mourao et ont refait toutes les observations, toutes les analyses, toutes les relevés, et notamment les traces de sang et autres qui se trouvaient sur la scène de crime.
Alors ça, c'est important parce que ça pourrait donner un panorama tout autre à l'enquête. Vous pensez qu'on va repartir, on va peut-être repartir sur de nouvelles bases, tout simplement ?
Moi, je l'espère. Gilles Tourny, non seulement protège de son innocence, et on a cette mission-là, mais on porte aussi une mission, vous l'avez dit, je crois que Simone a résumé un peu l'état d'esprit du couple. Ils veulent la vérité, c'est leur ami, Fernand.
Ils veulent reprendre
une vie normale et savoir qui a tué Fernand. Mmh. Et nous nous sentons pleinement associés aux actes d'investigation pour aboutir à la vérité.
Roger Marc Moreau, plusieurs pistes ont été négligées, on est d'accord ? Il y a plusieurs directions qui pourraient être prises par les enquêteurs.
Oui, on va faire examiner.
Ou reprises.
Même les éléments de l'enquête de base par un nouvel expert en génétique, M. Brugnot, que vous connaissez pour l'avoir déjà reçu, c'est quelqu'un d'excellent. Il va se rendre compte, même à la fois, qu'il y a des traces ADN qu'on retrouve sur la scène de crime et qu'on retrouve sur le véhicule du suspect. Et c'est pas Tourny dont je parle.
Ouais. De votre suspect.
Voilà. On trouve également des traces ADN de quelqu'un qui est proche également de cette femme et de cet homme sur la scène de crime. C'est des choses qui n'avaient pas été exploitées. Voilà.
Donc on ne peut pas exclure effectivement qu'il y ait de nouvelles auditions, ce qui serait logique, et qu'il y ait un nouvel éclairage sur cette affaire tout à fait nébuleuse. Maître Sylvain Cormier, alors dites-nous, dans quel état aujourd'hui, j'ai envie de dire psychologique, est votre client ? Parce qu'il y a, il y a eu cette incarcération qui a été très dure, ce coup de massue. Il est toujours mis en examen, il faut le répéter, il est toujours poursuivi. Aujourd'hui, c'est lui le suspect numéro un. Comment vit-il cette situation et cette attente ?
Il le vit très mal. Sa libération et son retour au foyer n'ont pas arrangé les choses. Je pense que Gilles Tourny souffre avant tout d'avoir été désigné comme un suspect dans cette affaire. C'est quelque chose qui le dévaste. Et c'est terrible de voir un homme en souffrance. Il devrait aller mieux, il devrait s'en remettre, mais avec Simone, on est assez inquiet pour lui. On voit que d'avoir été désigné comme ça est quelque chose qui le ronge.
D'avoir été pointé du doigt, ouais, et de devoir sans arrêt se justifier, ça c'est quelque chose qui est terrifiant pour lui.
Oui, je pense. C'est pour ça qu'on croit beaucoup à la technique. Il faut s'intéresser à ce tir qu'on a infligé à Fernand. Pourquoi on a tiré de l'extérieur ? Je pense que c'est des gens qui ne connaissaient pas Fernand, qui redoutaient ses réactions. Il y a des comparaisons possibles qu'on pourrait faire. C'est ce que je demande au juge d'instruction sur les poudres. On a retrouvé de la poudre sur deux suspects initiaux du dossier. Et ça serait intéressant de comparer ça avec la poudre qu'on a retrouvée sur la victime. Bon, tout ça n'a pas été fait et j'espère bien que ce sera fait.
Vous avez bon espoir d'être entendu, Roger Marc Moreau, Sylvain Cormier ?
Oui, bien sûr. C'est une famille dans la souffrance, mais pas seulement Gilles Tourny, son épouse, ses enfants. Et puis, il a fait 4 mois de prison, il n'avait pas le droit de voir personne, il était à l'isolement. Ça l'a complètement détruit. Donc effectivement, il faut absolument qu'on rende maintenant un non-lieu en faveur de Gilles Tourny et qu'on fasse maintenant les expertises nécessaires pour identifier les véritables coupables.
Alors, quelles sont, justement, encore une question, mais quelles sont les échéances là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un timing pour cette enquête ou il n'y a pas du tout de timing ? Ça a déjà beaucoup duré très longtemps.
Ça a duré très longtemps. Je souris parce que, oui, il y a un timing qui a été donné par la cour d'appel, mais ce timing n'a jamais été respecté, donc on va être très prudent sur cet aspect des choses.
Un dernier mot, il y a un nouveau directeur d'enquête qui a été nommé. Ce n'est plus le même, la gendarmerie nationale.
Ce n'est plus
c'est quelqu'un qui a l'air d'être très compétent et qui reprend l'affaire à zéro.
D'accord, donc là vous avez bon espoir qu'effectivement ça se déclenche et qu'effectivement on arrive à la vérité dans ce dossier.
Mais oui, il y a des indices matériels, objectifs, techniques qui ont été négligés. Je pense que si on les exploite, on aura la vérité.
Merci beaucoup Maître Sylvain Cormier, merci beaucoup Roger Marc Moreau d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime consacrée au cas Gilles Tourny, un fragile suspect. Sera-t-il renvoyé aux assises ? À suivre, bien sûr. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé avec nous cette heure du crime.
Pour écouter RTL, au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin,
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.